Alors, bienvenue à l'Assemblée du jour des expiations. J'espère que vous avez faim. Vous êtes censé avoir faim et il y a une raison pour cela. Au début du sermon, j'aimerais vous rappeler certaines raisons pour lesquelles nous célébrons le jour des expiations. En passant en revue les principes de base, j'allais apporter des chèvres en pluche, comme je l'ai fait dans le passé il y a longtemps. Je les ai pas apportées cette année, j'aurais dû le faire. Mais je me suis dit, si je le fais, je vais prendre encore plus de temps pour le sermon. Donc, rapportez-vous à Lévitique 23. Lévitique 23, c'est l'un des meilleurs endroits pour trouver tout ce que l'on a besoin pour, lorsqu'on se demande pourquoi c'est fait, qu'est-ce que nous faisons, quand ont-elles lieu. Lévitique 23, verset 26. Et nous commencerons au verset 26. Lévitique 23, 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Or, affliger vos âmes signifie jeûner, se priver de nourriture et d'eau. Vous pouvez le voir dans Ésaïe 58, verset 3, Ésaïe 58, verset 5, et ces deux choses sont liées ensemble. Continuons ici, dans Lévitique 23, verset 28, « Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu? Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Cela signifie qu'il faut commencer au coucher de soleil, et vous célébrez votre sabbat. » Le mot expiation, j'admets que j'avais l'habitude de me tromper là-dessus. Je me souviens avoir entendu M. Armstrong dire il y a longtemps qu'expiation signifie littéralement, si vous regardez l'orthographe anglaise, « at one moment », ce qui signifie « être un avec Dieu ». Cette compréhension subira pour nous de manière spéciale dans des raisons dont nous allons parler plus tard. Et j'avais l'habitude de penser, oh, quel beau jeu de mots qu'il a mis en place, ça marche très bien, at one moment. Et je ne pensais pas que c'était exactement ce que le mot signifiait. Je pensais que c'était son bon côté vendeur, mais le mot expiation littéralement veut dire, nous serons un avec Dieu. Et c'est l'origine des mots atone et atonement, une combinaison de mots qui veut dire être un. Donc la fête des expiations de manière particulière, très du fait que nous, non seulement nous, mais le monde entier, aura une occasion d'être un avec Dieu. Elle représente une étape très importante dans le plan de Dieu. La fête des expiations vient tout juste après la fête des trompettes et avant la fête des tabernacles. Et je me souviens, il y a longtemps, alors que j'ai appris ces choses la première fois, je peux même vous dire où je me trouvais dans ma vie, où je me trouvais physiquement. J'étais dans mon salon, en fait, dans le salon de ma mère. Et maintenant que je suis un parent, que je possède une maison, j'aime souligner cela, mes enfants, ce n'est pas vraiment votre maison, mais c'est la mienne. Un homme a raconté une blague il y a longtemps. Il disait que ses enfants mettaient des feuillets collants, des post-it sur toutes les choses qu'il voulait après sa mort à lui. Puis il s'est mis à mettre des feuillets collants lui aussi, des post-it partout sur la maison pour leur rappeler, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, 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 juste pour que vous sachiez. Donc j'étais encore au lycée. J'avais 14 ans environ, et lorsque j'ai commencé à regarder les émissions de télévision, et il y avait personne d'autre dans ma famille qui était à l'église. Et je me suis toujours demandé ce que ma mère disait ou pensait lorsque je lui dis, oh non, elle est encore en train de lire ses livres. Donc, j'avais les vieilles brochures des années 50 et 60, les jours fériés païens ou les jours saints de Dieu, lesquels, et j'étais allongé sur mon canapé, juste en avant de notre vieille télévision, de l'autre côté du salon. Et j'étais allongé sur le canapé et je lisais cette brochure et je suis tombé sur la signification du jour des expiations. Et sur la manière dont elle s'inscrivait dans la prophétie de manière absolument parfaite. Cela m'a étonné. C'était l'une des nombreuses choses que j'ai vécues à l'âge de 15 ans ou 16 ans qui m'a fait comprendre qu'il s'agissait vraiment d'une église différente. C'est une église dans laquelle Dieu a montré ces choses dans sa parole et que les autres personnes ne voient tout simplement pas. Donc, plutôt que de passer en revue tous ces détails que les œuvres de pluche, j'ai pensé me tourner vers Dr. Meredith. Nous avons une brochure sur les jours saints. Si vous ne le connaissez pas ou ne le savez pas, et vous demandez, oh, un jour saint approche, je me demande si je devrais étudier quelque chose en particulier. Je me demande si l'Église a quelque chose à lire sur les jours saints. Alors je vous encourage au moins pour chaque jour saint à consulter la brochure « Les jours saints, le magistral plan de Dieu ». Le plan de Dieu, c'est... Oh oui, c'est le mot magistral. Donc, je travaille au département de la rédaction. Donc, le mot magistral ne revenait pas. Donc, si vous voulez, lisez simplement la section relative à ce jour saint. Lisez simplement cette section sur ce jour saint et vous aurez passé en revue les principes fondamentaux le concernant. Donc, en fait, j'ai le chapitre ici sur la fête des expiations et je veux simplement vous en lire des extraits que vous puissiez faire le lien. Je n'avais pas l'intention de m'étendre sur ce sujet, mais je me reconnais et continuons à avoir de nouvelles personnes ici à l'Église et nous avons besoin d'entendre ces choses. Nous avons tous besoin de l'entendre. L'autre jour, j'ai fait une remarque sur un des sermons récents de M. McNair, le sabbat dernier, et celui de M. Weston sur la fête des trompettes, et comment ils ont couvert les mêmes choses que nous avons essentiellement entendues de nombreuses fois, mais ils les ont rappelées d'une autre manière, et peut-être que nous n'avons jamais envisagé auparavant. Donc, nous avons besoin de plus de ce rappel, et nous avons de nouvelles personnes aussi parmi nous qui n'ont pas entendu ces choses avant. Donc, je veux simplement lire des extraits de la brochure sur les jours saints, où le docteur Meredith explique le jour des expiations, qui se situe entre la fête des trompettes et ce que représente le retour de Christ, et la fête des tabernacles qui représente le millénaire qui suivra le retour de Christ. En lisant certaines parties du texte, il souligne les choses suivantes. Au commencement du règne de Christ, pour qu'il y ait une paix véritable et une harmonie parmi les hommes, Satan devra être banni pour permettre aux hommes de vivre en paix et dans l'harmonie. Dans Lévitique 23, versets 27 et 28, remarquez le commandement concernant le jour de l'expiation. On a lu ces versets-là auparavant. Et dans Lévitique 16, on trouve une indication claire de la signification réelle du jour des expiations. Il fait mention d'un rituel de l'Ancien Testament où deux boucs devaient être présentés au souverain sacrificateur. En Israël, le tirage au sort est un appel à Dieu pour qu'il tranche au sujet de certaines décisions. Ainsi, Aaron dut tirer au sort afin de choisir ou de faire un choix avec chacun de ces deux boucs. C'est mentionné dans Lévitique 16, verset 8. Et l'un de ces boucs représentait l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui plus tard abandonnera tout pour devenir notre sauveur. Et par eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de discerner quel bouc représentait qui. Ils avaient besoin donc de Dieu leur parle dans ce sens, par le biais du tirage au sort, pour mettre en évidence ce qui devait être fait. Qui devait représenter Christ, qui devrait se sacrifier pour nos péchés, soit pardonné. Mais alors, quel est le but de l'autre bouc? L'autre bouc représentait Azazel, un terme comme beaucoup de références hébraïques l'expliquent, signifiant l'adversaire ou Satan le diable. Donc, il existe une certaine confusion concernant ceci, et permettez-moi de vous dire que si vous êtes confus, nous voulons absolument vous aider. Monsieur Peter Nathan a écrit un article dans le Living Church News de septembre-octobre 2019, intitulé « Une histoire de deux boucs » en anglais seulement. S'il vous plaît, lisez cet article. Et la séduction à grande échelle commence toujours par une séduction à petite échelle. Donc, si vous avez des doutes à ce sujet, n'hésitez pas à poser des questions. Et l'article de M. Nathan est très bon de ce côté-là. Et donc, le docteur Meredith continue et il dit « Le bouc représentant l'Éternel devait mourir, c'est-à-dire Christ devait mourir. Dieu dit à Aaron de l'offrir en sacrifice d'expiation, au verset 9, tout comme Jésus qui donna sa vie pour nos péchés. Mais pour ce qui est du bouc adversaire, si vous voulez, Dieu ordonna, et ceci vient de Lévitique 16, versets 21-22, Aaron posa ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessa sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert, Lévitique 21-22. Puis M. Meredith continue, et il dit ensuite, l'homme qui devait conduire dans le désert ce bouc symbolisant Satan, devait laver son corps et même ses vêtements, verset 26, car symboliquement il avait été en contact direct avec l'incarnation du mal, Satan le diable. Donc cet homme avait reçu pour tâche d'isoler Satan du peuple de Dieu. Il devait conduire le bouc adversaire et l'abandonner dans le désert, au loin, afin que celui qui symbolisait Satan ne puisse plus faire de tort ni séduire le peuple de Dieu. Donc, pour conclure les commentaires du Dr. Meredith, il souligne « Le Nouveau Testament montre que c'est exactement ce qui va se passer lorsque le Christ reviendra. Alors, quand le jour des expiations aura-t-il lieu? Quand la cérémonie du bouc aura-t-elle lieu? elle se produit après la fête des trompettes et avant la fête des tabernacles. Donc, c'est le symbole d'un événement qui se produit juste après le jour du Seigneur, mais avant le début du règne du royaume de Dieu sur la terre. Alors, que voyons-nous prophétiquement se produire à ce moment-là? Et encore une fois, M. Meredith poursuit. Le Nouveau Testament montre que c'est exactement ce qui va se passer lorsque le Christ reviendra. Dans Apocalypse 20, nous lisons qu'un ange puissant aura pour mission de mettre Satan à l'écart. Citation d'Apocalypse 20, versets 2 et 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Notez, à l'écart de tout le monde, comme dans le désert, où il n'y a personne, où il n'est pas habité, afin qu'il ne subdivise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps, versets 2 et 3. Et il est clair que Satan, Azazel, ou l'adversaire, sera séparé de l'humanité, de sorte qu'il ne pourra plus séduire les êtres humains pendant tout le règne de 1000 ans du Christ. Donc, nous avons des brochures, et elles valent la peine d'être lues. Si vous avez besoin de quelque chose pour les jours saints, consultez cette brochure et lisez juste le chapitre s'y référant. Et c'est important. Ne laissez pas les principes fondamentaux vous échapper. Satan aimerait beaucoup faire perdre de vue les principes fondamentaux parce qu'il crée un petit vide, une petite poche, où il peut insérer quelque chose de son cru et qui sonnera tout aussi bien, si ce n'est peut-être un peu mieux, parce que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la colline doctrinale. Ne perdez pas les principes fondamentaux de vue. J'ai trouvé que le docteur Meredith a couvert cela de manière très très simple et très facile. Ce sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui, par contre, c'est pourquoi est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi la fête des expiations doit-elle venir en premier? Pourquoi le jeûne doit-il venir en premier? Ou, on peut penser avec une certaine logique, et je vais être franc, ça m'est déjà venu à l'esprit quand j'étais plus jeune, c'est avant la fête des tabernacles, lorsque nous allons manger tellement pendant la fête des tabernacles, nous avons besoin de faire de la place. Jeûner et pour faire de la place pour tous les steaks ou tous les plateaux de tofu, parce que ceux d'entre vous qui n'aiment pas le steak ou peu importe, mais ce n'est pas du tout ça. Si vous êtes un petit enfant et que vous vous dites « Oh, je le savais, c'était ça !» Mais non, c'est pas la raison. Laissez-moi vous résumer la situation. Est-il vraiment nécessaire que le diable soit enlevé? Après tout, nous luttons contre lui. Pourquoi le monde entier ne pourrait-il pas lutter contre lui tout le temps? Avez-vous déjà ressenti cela comme « J'ai dû lutter moi toute ma vie. Pourquoi mon arrière-grand-père qui va se présenter au jugement du grand trône blanc ne pourrait-il pas lutter lui aussi? » Mais pourquoi est-ce vraiment nécessaire? Lorsque vous y réfléchissez vraiment, ce que nous allons faire aujourd'hui, lorsque vous vous plongez dans l'identité du diable, dans son apparence, dans sa nature, vous commencez à comprendre pourquoi. Si le millénaire est pour fonctionner, Satan doit être éliminé. Si le millénaire doit être tout ce que Dieu a décrit dans la Bible, Satan, le diable, doit être éliminé. C'est donc ce que je veux parler aujourd'hui. Je veux examiner le diable dans le sermon et ce que la Bible dit à son sujet pour mieux comprendre sa nature et ce faisant, nous allons aider à comprendre pourquoi l'événement symbolisé par le jour des expiations est nécessaire avant les événements illustrés par la fête des tabernacles. Donc, nous allons comprendre pourquoi nous devons jeûner avant la fête des tabernacles. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Pourquoi le jeûne précède la fête? » Pourquoi le jeûne précède la fête? Monsieur de Simone me dira probablement plus tard que le titre aurait dû être les noms de Satan, parce que cela obtiendrait beaucoup plus de clics sur YouTube, et nous pourrons en discuter plus tard, mais c'est mon titre. Donc nous reconnaissons que parfois à la télévision, lorsque nous avons discuté, nous sommes si habiles avec nos titres que les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils vont voir. Parfois un titre plus flagrant fonctionne mieux. Donc si vous voyez celui-là en ligne et qu'il est écrit les noms de Satan, vous pourrez dire « je l'ai entendu, c'est simplement un titre différent ». Avez-vous déjà fait une étude sur les noms de Dieu? Certains d'entre vous l'ont fait, et c'est très instructif. Il y a certains comme Yahvé ou Yahvé-Varafika, selon la façon dont on le prononce, qui signifie l'Éternel, notre guérisseur. Et il y a différents noms de Dieu qu'il a consignés dans la Bible. Ces noms vous renseignent sur son caractère. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà vu un ministre les mentionner tous. Il y en a généralement quelques-uns qui échappent à l'attention des gens. c'est aussi de la même manière que l'on apprend à connaître le diable. Si vous prenez le temps de parcourir les Écritures et d'essayer à trouver comment il est appelé à divers endroits, Dieu a inspiré ces descriptions pour une raison précise, et c'est ce que nous allons faire au cours de ce sermon. Jetez un coup d'œil aux diverses descriptions que Dieu donne à Satan le diable, et chacune d'elles mettra en évidence les raisons pour lesquelles il est clair qu'il doit être éliminé. Il doit absolument être éliminé si le millénium doit avoir lieu. La plupart d'entre elles vous sembleront probablement évidentes, et si j'aborderais chacune d'elles, le sermon durerait 8 heures et comporterait beaucoup de répétitions. Vous pourriez penser que c'est ce que je veux faire au fond de moi, et c'est le cas, en quelque sorte, mais je le ferai pas. Je vais regrouper certaines d'entre elles ensemble parce qu'elles couvrent tous les sujets assez similaires ici et là. Par exemple, voici une catégorie de titres ou de noms pour le diable. L'un d'eux est le prince de ce monde. Ou si vous avez une autre version de la Bible, le maître de ce monde. Dans une même veine, vous avez le dieu de ce siècle. Et vous trouverez l'expression le prince de ce monde mentionné à 3 ou 4 endroits dans la Bible. Ceux-ci sont dans Jean, donc Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11. Donc, le Dieu de ce siècle, et nous y reviendrons plus tard à 2 Corinthiens 4, 4. Pour gagner du temps, je vais aussi regrouper 2 autres passages qui ne semblent pas tout à fait identiques, et j'expliquerai leur lien dans quelques instants. Il est appelé le grand dragon et le serpent ancien. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Et les deux noms attachés se retrouvent dans Apocalypse 12, verset 9. Et il rappelle, bien sûr, Genèse 3, où il est aussi appelé le serpent. Reportons-nous maintenant à 2 Corinthiens 4. Et pendant que nous faisons cela, je voudrais vous faire une autre publicité. C'est dans mes gènes, que voulez-vous? Donc, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un bon article et bref article, disons que vous rentrez chez vous et que le soleil n'est pas encore couché, et vous essayez de ne pas penser à « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim », ou vous pensez plutôt que « je suis spirituellement affamé, je suis spirituellement affamé de nourriture spirituelle », eh bien, laissez-moi vous suggérer un hamburger spirituel, et c'est un bon petit article qui couvre aussi des sujets très similaires. Il s'agit d'un article du Dr. Wenell, paru dans le journal de 2003, intitulé « Les astuces de Satan ». Savez-vous comment opère le diable et pourquoi? Les astuces de Satan, savez-vous comment opère le diable et pourquoi? Et c'est un très bon article. J'en ai une copie ici. Et si vous avez de bons yeux, vous pourriez peut-être en lire une partie ou du moins la première page. Mais cet article parle d'outils que le diable utilise pour nous piéger et nous prendre. Et je vous encourage donc à le lire si vous vous retrouvez chez vous avant le coucher de soleil que vous cherchez du matériel à réviser. Allons à 2 Corinthiens 4, verset 4. Et voyons un commentaire très important qui est fait. Et, oh, excusez-moi, nous allons commencer au verset 3. Ceux qui écrivent au stylo, vous allez devoir rayer le numéro 4 et écrire le numéro 3. Donc, 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, qui ne croient pas et qu'ils ne visent point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Donc, les paroles inspirées de l'Écriture désignent le diable comme le Dieu de ce siècle. Il ne semble pas dire qu'il est divin au sens de Dieu le Père ou de Jésus-Christ, mais dans le sens où celui qui, dans une manière réelle, dans les limites de Dieu, gouverne le monde. Il est le maître de ce monde. Celui qui est l'objet ultime de l'adoration, même si les gens ne le savent pas, ils adorent Satan le diable. Dans Jean 14, verset 30, Jean 14, verset 30, Jésus-Christ fait une déclaration que je trouve remarquable. Et c'est l'une des déclarations les plus étonnantes du Nouveau Testament, à mon point de vue. Nous devons tous être étonnés de différentes manières. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, à l'approche de sa crucifixion, Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Il n'a rien non moi. La corruption qu'il a enfin infusée dans chaque fibre du monde qui nous entoure, rien de tout cela est en moi, dit Jésus-Christ. Et je pense que c'est étonnant parce que je sais que lorsque je m'examine, et maintenant je suis à 50 ans, je travaille actuellement sur Wally 5.0, et j'ai fait un auto-examen avant la Pentecôte, et en quelque sorte, j'ai compris quelle version je suis en train de faire. Examinez-vous à votre façon. Peu importe qu'est-ce que vous voulez faire. Mais voici ce que j'ai fait. J'ai réalisé prévalentement que je travaille sur la version Wall-E 5.0. Et c'est assez ironique parce que j'avais 50 ans. Mais je ne suis pas encore tout à fait rendu à la version 5.0. J'en suis à la version 5.0 bêta, malheureusement. Mais j'y travaille. Et en m'examinant, je reconnais que je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas dire que le diable n'a rien en moi. Je trouve encore des empreintes digitales ici et là. Il y a des choses du monde auxquelles je suis attaché et qui peuvent vous sembler tout à fait innocentes, mais qui, lorsque vous les examinez, ne le sont pas. Cela vaut la peine de s'examiner, car Jésus-Christ a dit « Il n'a rien en moi ». Et le monde qu'il construira au cours du millénaire ne pourra rien avoir avec le diable, parce qu'il sera l'image de Dieu. Il ne reflétera rien du diable, d'aucune façon. Et l'apôtre Jean en a parlé dans 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2. Et quel sera le résultat de cela? Comment devrions-nous faire attention à nos affections, à nos désirs, à nos habitudes, aux choses que nous apprécions, et même celles que nous détestons? En gardant cela à l'esprit, on nous parle de l'avenir, parce que le monde actuel est le monde du diable. Et dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, l'apôtre Jean nous donne un avertissement et dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc ces choses qui peuvent être si attrayantes dans le monde, et nous parlerons de la raison pour laquelle elles sont si attrayantes un peu plus tard, elles vont disparaître. Elles vont disparaître. 4 fois dans le Nouveau Testament, le diable est appelé le prince des démons. Oui, le prince des démons. Et je le signale pour vous rappeler que le diable a un royaume. Lorsque Jésus-Christ règnera sur le monde entier, il n'y aura pas de royaume concurrent. Il y en aura au début, apparemment. La Bible nous indique que certaines nations ne voudront pas se soumettre. Elles se soumettront plus tard, car ils aiment la pluie et ils aiment avoir de l'eau quand ils ont soif, comme vous le savez aujourd'hui, mais les gens finiront par se soumettre, et c'est certain que nous allons entendre la lecture de Zacharie 14 au début de la fête des tabernacles dans quelques jours. Mais le diable ne se soumettra pas. Le diable est définitivement corrompu, et son royaume ne se soumettra pas. Il n'y aura pas de royaume pendant les 1000 ans de Christ. Donc le diable a un royaume et il exerce un pouvoir. Il commande aux autres. Il a un royaume, il est le chef des démons. Pour citer rapidement quelques versets, par exemple, on lit dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceci est dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. J'espère que la compréhension de cela vous aidera. Il y a réellement un royaume spirituel. Et si vous aviez un royaume et vous faisiez la guerre, ne planifieriez-vous pas? Ne feriez-vous pas une stratégie? Ne guerriez-vous pas l'Église et ne diriez-vous pas « Je pense vraiment que je peux éliminer ces personnes ici ou là. Je pense vraiment que je peux aller cueillir cette personne si j'assigne vous et vous et nous aimerions attaquer à ce moment précis parce qu'il y a un événement qui arrive dans leur vie et je sens que c'est le moment opportun de le faire. » Il y a une organisation, il y a de l'effort. Il est appelé le chef des démons et cela implique une autorité réelle et fonctionnelle. Et j'admets volontiers que je n'avais pas fait cela systématiquement dans ma vie où je l'aurais souhaité. Mais chaque fois que je m'en souviens, j'essaie de le refaire. Si je teste à temps le diable, je serais stratégique en fait de quelle ministre j'attaquerais. Je chercherais à obtenir la plus grande valeur pour mon argent. Et par conséquent, je dois prier pour ces ministres à cet égard. Je dois les soutenir devant Dieu, sachant que certainement, si le diable sait ce qu'il fait, et je sais qu'il fait mieux que nous ce qu'il fait, alors il y a certaines personnes qui sont dans sa ligne de mire. Et la seule chose qui les empêche de s'acharner sur ces hommes, comme il le fut pour Job, ce sont les contraintes ou la laisse que Jésus-Christ et Dieu le Père ont mis sur Satan. Et nous devrions donc prier pour les pères de famille dans nos congrégations et les pressions particulières qu'ils subissent. Nous devrions prier pour les mères. J'ai parlé à certaines d'entre elles. Ne pensez-vous pas que la façon dont le monde a fait de les atteindre au bout d'un certain temps et leur donne l'impression d'être juste une femme au foyer et de juste nourrir les enfants et de juste laver les vêtements et tout le reste? Vous pouvez lire dans la Bible que Dieu loue ce travail, mais le monde a sa façon de faire. Et le diable ne veut pas que nos femmes aient l'impression que c'est un travail digne de ce nom. Il a effectivement un royaume et il infecte la politique de notre monde. Certains veulent dire, d'une certaine manière, si vous allez à la Maison Blanche, qu'il y a une pièce spéciale où M. Trump a probablement une peinture géante du diable ou de Miley Cyrus et de l'autre côté ou quelque chose comme ça, tout ce genre de choses, ou une salle de culte démoniaque où tous les dirigeants font partie d'une sorte de cabale. Je trouve que ce n'est pas nécessaire d'opter pour ces conspirations folles parce que les choses simples donnent des explications requises. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter. Et la Bible en parle assez franchement. J'espère que vous noterez et que vous regarderez ce passage si vous ne l'avez pas fait auparavant. Allez lire Daniel 10 ou les questions, par exemple, du chef du royaume de Perse. Certaines personnes pensent que le Prince of Persia en anglais est simplement un jeu vidéo, et c'est en vrai un jeu vidéo, mais c'est inspiré d'un nom démoniaque réel dans la Bible. Le chef de Perse est un démon, et la Bible parle de prince, de chef de différents pays. Elle explique que ses aides ont de l'influence sur les nations. Ézéchiel 28, qui parle de la chute de Satan, par exemple, fait référence du roi de Tyr et du prince de Tyr. Ils sont entremêlés dans certains endroits et ils sont isolés dans d'autres passages. Parlant d'un dirigeant humain de Tyr, mais aussi de la puissance spirituelle qui se cache derrière tout cela. À l'approche des élections de novembre, M. McNair en a parlé hier, non, ce n'était pas hier, c'était lors du sabbat, de la nécessité de résister à la tentation de s'engager politiquement, de résister à la tentation de laisser le diable vous convaincre de sa façon de faire, de la compétition politique et de quelque chose à laquelle Dieu veut que vous participiez. Si vous avez manqué l'assemblée du sabbat, je vous encourage vivement à écouter le sermon. Je ne sais pas s'ils l'auront distribué avant les élections de novembre, mais il faut vraiment la peine d'être écouté. Et laissez-moi vous demander, et j'espère que c'est très clair dans votre esprit, parce que j'ai médité ce sermon depuis qu'il l'a donné, sur lequel des deux candidats à la présidence pensez-vous que Satan le diable n'a aucune influence? Merci pour les rires, mais je ne voulais pas faire une blague. C'est une question très légitime. Et je dis cela parce qu'il y a des gens là-bas, si vous entrez dans tous ces trucs de conspiration fou de QAnon, qui croient littéralement que Donald Trump est dans une guerre sainte qui va conduire au royaume essentiellement, et qu'il va répandre dans le monde entier, et qu'il y a un de ces trucs angéliques secrets et fous. Ce n'est pas vrai. Juste au cas où vous vous poserez la question, ce n'est pas vrai. Normalement, j'aime bien formuler les choses et laisser un peu de marge, mais je suis heureux de vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et le diable fera ce qu'il fera, peu importe lequel de ces hommes sera élu. C'est Dieu qui est aux commandes, qui décidera lequel de ces hommes deviendra le président, ou lequel deviendra le vice-président, ou lequel sera le président de la Chambre, ou quoi que ce soit dans le monde qui soit sur le point de se produire dans les prochains 1, 2, 3, ou 4, ou 5, 15 mois. Dieu décidera selon ses objectifs. Ce n'est pas votre décision, ce n'est pas la mienne. La politique de ce monde est imprégnée de divers aspects du diable, car il utilise son royaume pour avoir un impact sur la politique. Et le diable règne sur un royaume, et le monde entier est sous l'emprise de ce royaume, et le millénaire sera rendu possible par la suppression totale de ce royaume. Il n'y aura aucun fragment, aucune trace, il n'y aura pas de démons égarés laissés seuls qui seraient échappés, ou qui serait trouvé son chemin derrière les lignes ennemies sous Jésus-Christ, cela ne se produit tout simplement pas. Et ce sera assez difficile, pensez-y, parce que nous savons déjà que la Bible décrit qu'après le retour de Christ, il y aura des rois qui ne voudront toujours pas obéir. Et ce sera assez difficile pour eux. En fait, lorsque le diable aura disparu, et si vous êtes encore humain, et heureusement, je crois que nous serons tous rayonnants et brillants et complètement parfaits et convertis, Mais si vous ne l'étiez pas, si vous étiez encore qu'un être humain qui n'avait pas reçu l'Esprit de Dieu et qui n'avait pas été converti et que vous viviez jusqu'au millénaire, pensez-vous que l'élimination du diable signifierait soudainement que vous ne seriez plus rempli d'orgueil et que vous vous promeniez en faisant de belles choses toute la journée? Nous avons l'habitude de dire fréquemment dans l'Église, et cela vaut la peine d'être répété, que nous devons généralement résister à trois choses dans le monde. Satan, soi-même et la société. Les trois S. Satan, soi-même et la société. Et nous parlons aujourd'hui de la façon dont Dieu va se débarrasser de Satan. Et il le fera pendant 1000 ans. Et Jésus-Christ va s'assurer qu'il sera lié et incapable d'influencer. Et nous allons aider ensuite à réparer la société afin qu'elle ne soit pas une source de mauvaises tentations. Et c'est en fait ce que nous disons au camp d'été, sur l'éléphant qui se penche sur quelque chose. Lorsque tout le monde autour de vous est occupé à faire la bonne chose, il devient difficile dans la société de faire la mauvaise chose. Et nous allons réparer donc la société. Satan disparaîtra pour un temps, mais le monde sera encore rempli de beaucoup de petits mois. Vous savez, quand votre frère a l'air d'avoir une meilleure pomme plus juteuse que la vôtre, il est toujours plus tentant de dire « J'ai été traité injustement et j'aurais dû recevoir cette pomme. » Et ses attitudes seront encore là, sans parler du fait que si vous étiez un roi de ce monde, que vous aviez du pouvoir et que vous aviez des responsabilités, que vous étiez servi par des serviteurs et tout le reste, il sera assez difficile pour ces gens-là. Et ce sera assez difficile pour les nations politiques de ce monde de se soumettre sans que le royaume du diable soit enlevé. Mais il le sera. Et ils n'auront plus le malin pour chuchoter à l'oreille. Un autre titre et un autre nom du diable, au moins 8 fois dans le Nouveau Testament, est le malin. Et selon les traductions, parce que le mot pour malin peut aussi être parfois traduit pour méchant ou mauvais. Et nous allons voir un exemple ici dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, verset 18. L'apôtre Jean écrit 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous comprenons bien que nous sommes engendrés de Dieu, nous ne sommes pas nés. Et souvent, lorsque Jean parle de ne pas pécher, il dit de ne pas pratiquer le péché, de ne pas faire un mode de vie permanent, parce que si vous pensez que vous n'avez pas péché, balayage. La plupart d'entre vous ont déjà péché aujourd'hui, c'est terrible. Pourquoi vous dites cela? Non, non, je plaisante. Je ne veux pas scanner, mais je veux juste ici continuer au verset 19. Verset 19. Et nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous son emprise. Croyez-le ou non, les artistes qui jouent de la musique et que vous écoutez sur Spotify sont sous l'emprise du malin. « Oh non! Vous plaisantez! Qu'est-ce que je vais faire? Oh oui, vraiment! Mozart! » Définitivement sous l'emprise du méchant. Beethoven, sous l'emprise du malin. Elton John, choquant, sous l'emprise du malin. Les gens qui font nos films sont sous l'emprise du malin. Les gens qui écrivent nos livres à l'université pour littéralement tous les sujets que nous étudions. Sous l'emprise du malin. Et cela a un impact. Qu'est-ce que ça signifie d'être malin? Malin est l'un de ces mots qui, malheureusement, à notre époque, finit par signifier quelque chose de vraiment génial en anglais. Quelque chose comme « Oh, c'est vraiment malin! » ou « Oh, c'était méchant! » ou en français, on dirait « écœurant! » On utilise ces mots pour dire quelque chose de génial. Avez-vous vu cet homme? Comment il était sur son vélo et que la main est tournée dans les airs? Et il semblait que son temps de suspension était de 37 secondes et le vélo se tordait. « Wow! C'était méchant! C'était wicked! » Allons à l'hôpital et lui dire à quel point nous avons aimé avant qu'il ne s'écrase au sol et ne casse 2/3 des os qui étaient dans son corps. Donc c'était utilisé comme un compliment, mais ce n'était pas vraiment un compliment. C'est un synonyme de l'idée du mal, quelque chose d'ignoble. Si vous êtes le malin, si vous êtes l'être vil, vous êtes celui qui est nuisible. C'est aussi même parfois associé à la maladie. Si vous êtes méchant, vous êtes celui qui est malade. Dans au moins un endroit que j'ai consulté, on souligne que c'est non seulement une question de caractère, mais aussi d'effet. Votre effet sur le monde et sur les autres. Le diable est appelé le malin. Nous voyons cela lorsque nous voyons les effets que le diable produit sur les autres. Il avertit tout ce qu'il touche. Corrompt tout ce qu'il touche. Vous pouvez penser à tant de bonnes choses que Dieu a créées. Même de bonnes choses que nous avons créées, et nous avons utilisé les compétences que Dieu nous a données, et nous avons fait de bonnes choses. Mais nous constatons que le diable était capable de tout corrompre. Maintenant, pensez au sport. Et je n'aime pas le sport, je n'aime pas le sport du tout, je ne suis pas sportif, mais j'aime bien regarder un peu. J'ai apprécié quand mon fils Benjamin travaillait chez Papa John's, la pizzeria du stade des Carolina Panthers. Il était vraiment intéressé au sport et maintenant il connaît les noms et les statistiques de tout le monde, comme vous autres, bande de bizarres. Il regardait vraiment toutes les parties, mais maintenant on se contente de regarder les fessignards sur YouTube. Et j'ai découvert donc qu'on pouvait faire cela. Le football est devenu beaucoup plus intéressant. Je peux regarder les bons moments et avoir fini à temps pour faire autre chose. C'est génial. J'apprécie vraiment cette option. Donc, en quelque sorte, je suis un hérétique de ma famille car nous venons d'une longue lignée des fans de Cowboys de Dallas, ce qui en choque probablement plus d'un. Et ils avaient l'habitude de l'appeler l'équipe de Dieu. Ben, Tom Landry, qui était l'un des entraîneurs, était une personne ayant de grandes convictions. Et je me souviens plus tard lorsque les premiers joueurs ont été condamnés pour possession de cocaïne et le reste. Ma première pensée était, ouais, eh bien, si Tom Landry avait été là, cela ne se serait pas produit. Parce que c'était un homme juste, vraiment bon et droit. Mais regardez le sport aujourd'hui. Ne vous méprenez pas, c'est agréable. C'est beau de voir des gens utiliser leurs compétences de manière étonnante. Mais quelle bande de monstres païens, bien des égards, n'est-ce pas? Il est amusant de voir combien de personnes les soutiennent, comme s'ils étaient loyaux, parce qu'ils vivent dans la même ville ou qu'ils sont attachés à leur maillot, à leur couleur, mais ensuite une autre ville leur verse plus d'argent et ils y vont tout simplement. Il n'y a pas de loyauté. Ils sont pas là parce qu'ils vous aiment personnellement. Ils sont là parce qu'ils gagnent plus d'argent, en faisant ce qu'ils aiment faire. Et c'est comme si j'étais payé pour manger des macaronis au fromage pour le restant de ma vie. Ce n'est pas honorable du tout. Je ferais juste manger des macaronis au fromage. Et soit dit en passant, je n'ai pas mangé du macaroni au fromage depuis très 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 longtemps. Mais ils sont payés pour faire ce qu'ils aiment. Et peut-être les valeurs auxquelles ils sont accidentellement attachés, parce que nous aimons penser à nos héros comme étant vertueux, ont été mis de côté, si vous voulez, pour faire place au fait que ce qui se passe, c'est que les propriétaires apprennent que leurs joueurs n'ont pas besoin d'être vertueux pour continuer à gagner de l'argent. Et parfois, vous ne souciez pas du fait que la personne était condamnée pour quelque chose, parce que le joueur continue à vous faire gagner de l'argent. Il y a tellement de corruption, mais le sport peut être amusant. C'est merveilleux. Et mes garçons font partie, comme beaucoup d'entre vous, du groupe d'Ultimate Frisbee de la congrégation de Charlotte. Et nous avons une culture profonde d'Ultimate Frisbee, le terme en français est l'Ultimate, pour laquelle beaucoup ont sacrifié. Et c'est une culture importante ici à Charlotte. Mais que se passerait-il si vous preniez les mêmes attitudes du sport professionnel et que vous les apporteriez dans la culture Ultimate Frisbee de Charlotte? Ce serait horrible! Je ne porterais pas mon jeune impressionnable fils David jouer au frisbee. Quoi? Vous ne pensez pas que David soit un bon petit garçon? Blague! Nous ne voudrions plus parmi nous. Nous l'éjecterions parce que le diable corrompt. Être dans le monde corrompt les choses. Il les rend méchants. Pensez à l'éducation. Cela étonnerait certains d'entre vous. Certains d'entre vous suivent les nouvelles, mais il y a aussi des choses que vous n'entendez pas, même dans les nouvelles, et que l'on enseigne aux enfants aujourd'hui. Dans de nombreux endroits, le diable corrompt. L'éducation doit être une source de connaissances, d'apprentissage du monde, d'apprentissage de la manière de traiter les autres, d'apprentissage de la manière de faire ce qui est juste. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Dieu a créé le sexe. C'est peut-être un choc pour certains d'entre vous, mais il l'a fait. Et Dieu a créé le sexe pour qu'il y ait lieu dans le cadre du mariage entre un mari et une femme. Et je ne peux en aucun cas vous encourager à vous plonger dans des recherches sur ce genre de choses, mais je sais que lorsque j'ai entendu parler de ces choses, ou j'ai parlé des officiers de police, et j'ai enseigné à l'école secondaire, et ainsi de suite, et c'est ainsi qu'avant que l'Internet arrive, et c'est encore pire depuis ce temps, mais les officiers qui doivent poursuivre certains crimes et le reste, ils doivent investiguer, ils doivent faire des enquêtes sur ces genres de choses, ils doivent mener des enquêtes, ils doivent rassembler les preuves, et ils vont dans les endroits qui sont franchement juste à quelques clics. Et ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous donner des détails. Mais cela dit, je pense que cela pose un problème. C'est comme si j'ai l'impression que si je disais que je ne vais pas parler des détails, vous penseriez que c'est vraiment mauvais. Mais voilà. Je ne peux pas penser à toutes les choses qui entrent dans la catégorie. Nous n'allons pas parler de ces détails. Et ce n'est qu'un début des choses qui existent. Des choses dont la plupart d'entre vous n'ont même pas les neurones capables d'envisager les possibilités. En ce qui concerne la façon dont le sexe, Quelque chose que Dieu a créé a été perverti et rendu absolument méconnaissable, atteignant absolument le contraire des buts qu'il était censé créer et favoriser. Donc, Satan change les choses parce qu'il est méchant, il est malin. Il prend le bien et le rend mauvais. Il corrompt tout. Satan corrompt tout. Ils ont titre 1. Titre, chapitre 1, verset 15. Titre 1, verset 15. Ils corrompt tout. Titre 1, 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Vous savez, c'est intéressant. Nous avons effectivement ceux qui aiment critiquer l'Église ici et là. L'expression que nous utilisons souvent est « les gens cherchent des briques qui branlent ». Il y a toujours des briques branlantes. Il y a toujours quelque chose qui ne plaira pas. Et je travaille à la rédaction et ça fait partie de mon travail. Et lorsque quelqu'un lit un article, dit « oh, regardez, vous avez mal orthographié ceci » et appelle pour nous informer, et c'est mon travail d'essayer d'arranger ces choses-là, où une erreur s'est glissée. C'est intéressant de pouvoir voir l'attitude de la personne qui vous parle. Est-ce qu'ils vous parlent parce qu'ils ont l'état d'esprit suivant? Pour les purs, tout est pur. Donc, ils supposent le meilleur quand ils vous appellent et ils supposent que c'est une erreur. C'est comme si vous disiez, oh oui, je me suis dit qu'à la page 18, vous avez dit que le Père Noël est un type absolument formidable et vous devriez apprendre à mieux connaître. Oh non, comment allons-nous dire une telle chose? Comment cela est-il arrivé? Et nous avons été piratés. Et en passant, nous n'avons pas de littérature qui dit cela en passant, juste pour que vous le sachiez. Mais d'habitude, lorsqu'une personne appelle, vous reconnaissez juste à l'attitude qu'ils avaient. Je voulais juste vous dire, et je sais que vous voudriez réparer cela. Et habituellement, c'est juste un problème d'orthographe et quelque chose comme ça. Mais il arrive que nous nous trompions. En fait, il y a très peu de temps, une description faisait référence au jugement du grand trône blanc comme étant une seconde chance. Et c'est une erreur. C'est une première chance. En fait, M. Armstrong a été attaqué dans la pensée pour la doctrine de la deuxième chance d'Armstrong. D'une certaine manière. Mais non, c'est la première opportunité réelle. Il s'agit d'une erreur innocente. Quelqu'un qui essayait d'écrire et de dire combien il est merveilleux que les gens qui sont morts ne soient pas perdus pour toujours. Ils auront une opportunité. Et dès que nous l'avons su, nous sommes allés en ligne et nous l'avons corrigé. La description ne dit plus cela. Donc la personne qui nous a prévenus supposait le meilleur, car pour les purs, toutes les choses sont pures. Ils assument le meilleur. Mais il y a de ceux qui supposent toujours le pire. Et ils voient cela. Et au lieu d'appeler le rédacteur en chef, ou de leur envoyer un courriel, ou même de parler à leur pasteur, ils vont sur Facebook. Et cela ne se produit, pour autant que je sache. Mais la prochaine chose que vous savez, c'est que les gens disent que maintenant l'Église enseigne que c'est une seconde chance. Puis ils questionnent en disant, quoi d'autre ont-ils changé? Et pour les purs, toutes choses sont pures. Mais pour ceux qui sont souillés et incrédules, rien n'est pur. Même leur esprit et leur conscience sont souillés. Et c'est ce que fait le diable. Et il plante des graines de méchanceté. Il plante des graines de corruption. Et c'est plus facile à faire que vous le pensez. Vous pourriez penser, j'accepterai jamais quelque chose de méchant ou de corrompu. Mais il a sa façon de faire, comme nous allons le voir, par ses autres noms que nous regarderons. Et il plante des graines, il commence à corrompre toutes vos pensées. Ensuite, vous interprétez chaque verset qui vous est donné légèrement différent parce que vous avez cette idée. Et c'est la même chose que certaines conspirations peuvent faire. Changer la façon dont vous pensez pour tout. Tout. Le diable est malin. Il est le méchant. Et la méchanceté est une corruption, est une perversion. Et il pervertit tout ce qu'il touche. Un autre nom pour le diable qui nous est donné. En fait, reportons-nous à Éphésiens 2:2. Reportons-nous à Éphésiens 2:2. Paul parle aux individus ici à Éphèse. Éphésiens 2, verset 2. Paul parle de la manière dont les gens ont été rendus vivants après avoir été morts dans leur péché. Il dit, « Dans lequel vous marchiez autrefois, au verset 2, selon le train de ce monde, un monde corrompu que nous avons déjà discuté, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous avons tendance à nous concentrer sur le prince de la puissance de l'air, et je vais certainement me concentrer là-dessus dans ce moment, mais je veux saisir l'intégralité de cela, le prince de la puissance de l'air, mais aussi l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, de la désobéissance. Et je veux m'assurer que je considère cela, parce que parfois vous pouvez penser, « Oh, le diable travaille dans cette personne, que signifie-t-il qu'elle est possédée comme Judas, ou le diable était littéralement entré dans son corps? » Non, absolument pas. Le diable peut travailler dans les gens sans nécessairement les posséder. Il peut accomplir ses desseins de désobéissance, ses desseins de rébellion, à travers des personnes qui n'ont pas nécessairement été possédées par le diable, simplement les influençant, comme nous le voyons tout le temps. Lorsqu'on m'a expliqué pour la première fois dans l'Église le prince de la puissance de l'air, quand cela m'a été expliqué, la métaphore pour m'aider à comprendre était celle d'un signal radio. Et c'est difficile car beaucoup d'entre nous n'écoutent plus la radio. Peut-être que dans votre voiture, certains d'entre vous le font. C'est peut-être le cas, tant mieux. Mais vous avez peut-être un 8-piste, vous savez, moi et ma radio sur la route. Certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est un 8-piste. Vous pouvez même pas apprécier ironiquement que je dise 8-piste, parce que vous savez même pas ce qu'est un 8-piste. Mais je vois que certains d'entre vous le savent. Mais la radio diffusait des signaux que l'on recevait avec une grande antenne, et que l'on pouvait capter. Et vous deviez travailler, vraiment travailler pour la capter, lorsque ce n'est pas numérique. Dans nos jours, vous appuyez sur un bouton pour trouver la station de radio. À l'époque, vous aviez un bouton et vous deviez vraiment ajuster cette antenne à l'intérieur de la radio. Et si vous vous trompiez un peu, vous entendiez des parasites. Parfois, vous pouviez encore entendre, mais il y a toujours des parasites. Ou si vous étiez hors de portée et que le signal était trop faible, il y avait des parasites. J'ai essayé de changer l'analogie au Wi-Fi, mais ça marche pas. Vous savez, le prince de la puissance de l'air est comme le Wi-Fi. Mais j'ai réalisé, non, alors vous avez un bel avertissement sur les problèmes de connectivité d'Internet. Rien ne vaut donc la radio. J'apprécierais que ceux qui n'ont pas encore expérimenté la radio, pour le bien de la compréhension de ce sermon, après le coucher de soleil, avant dîner, allez vous acheter une radio. Jouez avec elle pendant une heure ou deux pour vous faire une idée de ce que c'est. Mais si vous avez une voiture qui a encore une radio et que vous avez la capacité de trouver une station qui n'entend pas très bien et que c'est une radio, pas les radios sophistiquées d'aujourd'hui, mais jouez avec elle un peu. Mais je me souviens de mon père, alors que nous étions au Kentucky chaque été, et même dans le fin fond du Kentucky, il voulait absolument entendre ce que faisaient les Rangers du Texas. Il n'y avait pas de match des Cowboys du Texas à l'époque, c'était pas la saison. Alors il devait entendre ce que se déroulait le match des Rangers du Texas, baseball. Et nous allions tous au lit le soir, mais dans la fenêtre, il avait la radio de mon grand-père. Et c'était une radio avec deux cadrans. Il y avait votre bouton de synthétisation de réglage général qui faisait bouger l'aiguille d'une station à l'autre. Ensuite, lorsque vous étiez proche, il n'y avait pas tout à fait là, il y avait un cadran de réglage fin pour vraiment déplacer l'aiguille lentement pour que vous essayiez d'obtenir la meilleure réception possible. Donc, au fond du Kentucky, quand on comprend le fonctionnement de l'atmosphère, on peut obtenir des signaux radio réfléchis et d'autres choses, et on pouvait à peine, il y avait des nuits où il travaillait si dur, selon les conditions atmosphériques, pour obtenir un « c'est un circuit, et j'ai trouvé ». C'était à moitié statique et à moitié la partie de baseball. Ces nuits où il n'obtenait que 10% étaient vraiment frustrantes pour lui. Frappe, court, bataille, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'abandonnait pas parce qu'il voulait tellement entendre le reste du match. Donc, pensez à mon père dans le Kentucky, luttant pour entendre les Rangers du Texas. M'a vraiment aidé avec cette idée, parce que parfois, nous pouvons penser qu'être sur la longueur de Satan ou ne pas être sur la longueur de Satan est binaire. Un ou l'autre, c'est un ou zéro. Comme si vous étiez à l'écoute du diable ou que vous étiez à l'écoute de Dieu. Mais honnêtement, parfois, nous nous battons avec le cadran. Soit nous luttons pour nous éloigner de cette station, et parfois, franchement, nous luttons pour nous approcher un peu plus. Et cela m'a fait réfléchir sur ma propre vie. Quand je pense que le diable est le prince de la puissance de l'air qui infuse le monde autour de nous, même dans l'esprit du premier siècle, et je ne crois pas que les auteurs du premier siècle pensaient aux ondes radio, je vais être honnête, mais je ne pense pas qu'ils aient compris que la radio allait exister un jour, mais je pense que le prince de la puissance de l'air est toujours d'actualité, car c'était le moyen de plus répandu qu'ils comprenaient. C'était le thème. Et le prince du pouvoir de l'air, il communique ces choses à travers l'air. C'est comme respirer de l'air. C'est autour de nous. C'est tout autour de nous. Et vous devez travailler pour y échapper. Et parfois avec le diable, si j'examine ma propre vie, je n'examinerai pas la vôtre. C'est votre travail. Je constate que je pense être branché sur la longueur de Dieu. Et par conséquent, il devrait y avoir pas de statique. Je n'entends pas l'émission du diable. Mais si j'écoute attentivement, je peux entendre très discrètement « Tchhh! » Il y a un circuit, parce que je ne suis pas vraiment quitté le canal. J'ai traîné juste un petit peu. Il y a encore juste un petit peu de déception, là. Si vous y réfléchissez, le diable n'a pas besoin de vous synthoniser à 100%. Il a juste besoin de vous affecter un peu. Parfois, le diable prendra n'importe quelle victoire qu'il obtiendra. Qu'il s'agisse de 7 points, de 6 points, de 3 points ou simplement d'une sûreté, il est heureux d'inscrire des points au tableau. Et vous avez tous compris l'analogie au football américain ici que je viens de faire, hein? Vous êtes bienvenus. Je dois être honnête, je ne suis pas sûr que j'avais fait tout correctement, mais en quoi que ce soit, il veut juste marquer des points au tableau. Il veut juste un peu d'influence. Il ne se soucie pas que vous n'avez pas été complètement horrible avec votre femme ce matin. C'est peut-être qu'il peut juste vous influencer pour que vous disiez un seul mot désagréable. Il savait que c'était suffisant pour lui pour accomplir aussi ce dont il avait besoin pour elle, pour ses desseins à lui. Donc le millénaire serait-il possible si le diable diffusait constamment son attitude, son esprit, sur les ondes, si vous voulez? Cela ne serait pas possible. Et Dieu va supprimer cette station. Jésus-Christ ne permettra pas que cela se produise. Un autre mot pour le diable est tentateur. Le tentateur. Et il est utilisé plusieurs fois. Je sais que dans Matthieu 4, par exemple, quand Jésus-Christ est amené dans le désert, il parle de la façon dont le tentateur le rencontrer dans le verset 3. De même, Paul appelle le diable le tentateur dans 1 Thessaloniciens 3, 5. Le tentateur, celui qui tente. Celui qui tire constamment sur vous. Vous savez, quand le prince de la puissance de l'air est en même temps un tentateur, c'est un mauvais combo. Ce serait une chose si le prince de la puissance de l'air aurait de bonnes intentions à votre égard. S'il a de bonnes choses pour vous, s'il veut que vous meniez une vie plus saine, ce serait une merveilleuse influence à avoir constamment. Mais il est le tentateur, et c'est totalement différent. Cela signifie que nous vivons dans un environnement de tentation maléfique. Et dans le millénaire, ce ne sera pas possible si cet environnement existait encore. Donc, j'ai tendance à considérer la tentation comme la gravité. Elle exerce une attraction constante sur nous et nous devons la résister. Si ne vous résistez pas à la gravité, c'est elle qui gagne. La Terre est plus grande que vous. Si vous allez tomber, vous ne faites pas quelque chose d'extraordinaire pour vous opposer. Si vous êtes en mesure de me voir, c'est parce que nous avons un podium sur lequel le lutrin et moi-même nous nous tenons et il résiste à la Terre. La Terre veut m'enfoncer davantage. Si vous étudiez la physique, il y a une réaction égale et opposée qui me maintient où je suis. Je ne coule pas, je ne flotte pas non plus. Je suis tout à l'équilibre. C'est comme ça que la physique fonctionne. Elle tire toujours. Elle tire sur tout. En fait, il y a une expérience amusante que j'ai vu un professeur de physique faire un jour. Et ça peut sembler morbide, je m'excuse, mais je vous assure qu'aucun singe n'a été blessé dans cette expérience. Il y avait un long laboratoire, une salle de conférence. Et à une extrémité, il avait un singe en peluche, pas un vrai singe. Et à l'autre extrémité, il avait un pistolet. C'était comme un pistolet à plomb, ou peut-être simplement un de ceux avec un gros projectile en mousse. Mais c'était un pistolet qui tirait assez rapidement parce qu'il le fallait pour que l'expérience marche. Et il dit, d'accord, imaginez que la vitesse du son soit pratiquement immédiate. Sinon, l'expérience ne fonctionne pas. Et il dit, disons que vous êtes le chasseur, et que pour une raison quelconque, vous êtes vraiment en colère contre ce singe. J'aurais préféré qu'il choisisse pas un singe, mais de toute façon, pour une raison quelconque, vous devez tirer ce singe. Alors, vous savez qu'au moment où le singe entendra le coup de feu, le singe lâchera prise, car il sait qu'il est en danger. Lorsqu'il entendra le coup de feu, le singe lâchera prise, et il faudra encore du temps pour que votre projectile atteigne la cible ou atteigne le singe. Et il dit, sachant qu'au moment où vous tirez, le singe lâche la prise, où devriez-vous viser? Après tout, si vous visez le singe, par le temps que votre balle arrive, le singe ne sera plus là. Et ensuite, il faisait le calcul pour montrer que oui, nous devons viser exactement le singe. Parce que la gravité agit sur les deux. Et même si la balle se déplace très rapidement horizontalement, la gravité les attire exactement à la même vitesse. Donc la balle se déplace exactement en même temps que le singe. Même si vous avez toute la puissance dans ce mouvement latéral, la gravité fait toujours son travail et tire les choses vers le bas à la même vitesse. Je parle de cela pour une raison. Ce n'est pas parce que je déteste les singes, mais parce que je sais ce à quoi je pense quand il s'agit de tentation. Vous pouvez être très occupé dans votre vie, je peux être très occupé dans la mienne. Peut-être que j'étudie ma Bible, mais je lis les bons livres, j'essaie de regarder de bons films. Mais je dois reconnaître que si je ne fais pas d'effort dans la direction opposée à la tentation, il se peut que je ne résiste pas du tout, que je ne suis pas en train de résister du tout. Et parfois, nous confondons être occupé avec droiture. Et permettez-moi d'être franc. Il est facile de tomber dans ce panneau ici à Charlotte. Dr. Meredith, M. Weston, M. Ames, nous ont tous mis en garde à ce sujet. Alors que nous travaillons dur, nous devons quand même faire toutes les choses spirituelles pour nous-mêmes que nous devrions faire normalement. Nous devons faire notre étude de Bible, nous devons faire notre prière. Nous pouvons totalement être pris à travailler sur le magazine de Dieu, que nous ne restons pas en contact avec Dieu nous-mêmes. Il ne nous suffit pas de faire quelque chose. Il faut résister. Si nous ne résistons pas à la tentation, nous y succomberons. Quoi qu'il en soit, ou quoi que nous fassions d'autre. Jacques 4. Jacques nous encourage à cet égard dans Jacques 4. Jacques 4, versets 6 et 7. Jacques 4, versets 6 et 7. Au verset 6. Où il nous dit, parlant de Dieu, Jean 4, verset 6 et 7, « Accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste à l'orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Résistez-lui, il s'enfuira. Mais il faut que ce soit une vraie résistance. Et parfois, elle n'est pas immédiate. En fait, nous ne nous reportons pas ici en raison du temps. Mais notez Hébreux 12, 4, où Paul dit, vous n'avez pas résisté, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est ça la résistance. Et parfois, notre résistance n'est un peu qu'une remise à plus tard, dans l'espoir qu'au moment où nous l'avons remis à plus tard, elle ne sera plus aussi tentante. Dieu cherche à ce que les gens développent maintenant ces muscles avec lesquels nous résisterons, quel que soit le moment. En passant, c'était dans Hébreux 12, versets 3 et 4. Lorsque vous pensez à la période de 1000 ans de Christ, pensez-y comme si cette force était désactivée. Sans cette tentation surnaturelle et constante sur les gens, quelle différence cela fera? Et réfléchissez à la possibilité que le millénaire puisse se reproduire avec cette attraction constante et permanente. Jusqu'à présent, je n'ai pas couvert les noms évidents de Satan et le diable, qui est Satan et le diable. Maintenant, faisons-le. Le nom de Satan. Satan peut signifier adversaire, opposant, accusateur ou calomniateur. En fait, ce mot est utilisé en hébreu à plusieurs endroits, non pas pour signer le diable lui-même, mais pour désigner aussi simplement des adversaires. Le mot diable est également et similaire. Le mot « diable » apparaît dans le Nouveau Testament, il a le sens de « faux accusateur » ou de « calomniateur ». Et j'étais un peu intrigué, la concordance exhaustive de la Bible Strong n'a pas toujours idéal pour les travaux de traduction pour ce qui est d'obtenir le sens des mots, mais il vous indique principalement comment les noms sont traduits ou ainsi de suite. Mais j'ai remarqué que Strong avait un mot intéressant pour le mot « diable » qui était « fourvoyeur ». Je suis toujours intéressé par les mots qu'il n'a jamais entendus auparavant, mais le diable peut signifier fourvoyeur, et j'ai vérifié essentiellement que c'est quelqu'un qui fourvoie, quelqu'un qui trahit, qui blâme, souvent par le biais de fausses déclarations, de fausses représentations. Et nous allons juste regarder un verset pour cela, c'est principalement le verset qui m'a peut-être le plus dérangé, et par dérangé je veux dire, et c'est dans Apocalypse 12, que c'est un verset qui m'a amené à réfléchir à moi-même, sur mes propres choix, sur ce que je fais et sur la façon d'évaluer les choix que je fais. Dans Apocalypse 12, verset 10, nous avons un orateur inspiré qui décrit le diable de cette façon. Dans Apocalypse 12, verset 10, Jean écrit Apocalypse 12, 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le diable a été décrit ici comme l'accusateur des frères. Et donc, il y a des moments où j'ai dû m'examiner moi-même, et Je ne pense pas ou je ne m'attendrai pas à ce que le nom de Satan me soit appliqué ou que le nom de diable me soit appliqué. Mais un accusateur des frères, ce titre me serait-il jamais appliqué à moi dans un des choix que j'ai fait, une des paroles que j'ai prononcées ou un morceau que j'ai tenté de donner à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit? Je me souviens de la première fois que j'ai eu cette idée il y a des années. Et la façon dont il est écrit ici, qu'il les accuse devant Dieu jour et nuit, il m'a fait penser à cela. C'est une pensée qui m'a donné froid dans le dos. Non pas que je puisse penser à un exemple spécifique dans ma vie, mais je pensais simplement à la nature humaine, à ce que nous pouvons être tentés de faire. J'ai pensé que si le diable pouvait être dans la cour de Dieu, pour un temps, un peu comme il l'a fait dans le cas de Job, accusant le peuple de Dieu de quelque chose, peut-être une personne particulière à ce moment-là dans l'Église de Dieu, est-ce que jamais je voudrais que Dieu regarde par-dessus l'épaule du diable, sur la terre, et me voir en train de faire exactement la même chose? Et si jamais il le faisait, je prie qu'il ne prenne pas une photo de cela et me la montre plus tard, car cela me briserait le cœur. Il y a de ceux qui ne considèrent pas le modèle dans lequel ils tombent quand ils acculent les autres dans l'Église de Dieu. Lorsque quelqu'un, que ce soit en caractère d'imprimerie, sur Facebook ou par les lèvres de la bouche, fait preuve d'un esprit d'accusation à l'égard des membres de l'Église de Dieu ou des dirigeants du peuple de Dieu, ne vous méprenez pas sur l'origine de cet esprit. Ne vous méprenez pas sur l'origine de cet esprit. Un esprit d'accusation remplit nos écrans de télévision. Les garçons et moi regardons beaucoup YouTube. Et nous voulons pas nous asseoir et regarder un programme d'une heure entière. Nous regardons simplement quelque chose sur YouTube. Et puis nous regardons une heure de choses de 5 minutes parce que nous aimons les choses qui sont historiques et parfois elles sont pas toutes différentes et ne sont pas toutes mauvaises. Maintenant, des fois elles sont idiotes. Mais il y a des choses très intéressantes que nous aimons regarder. Et c'est parfois aussi très frustrant ces derniers temps. Il semble que si ce n'est pas à chaque vidéo, il y a une vidéo sur deux qui est précédée par une publicité politique. Et c'est souvent la même publicité. Et je dis, mettez des cookies sur mon ordinateur, quelque chose, pour que vous sachiez que nous avons déjà subi cette publicité. Et à moins de moins une publicité d'attaque politique plus divertissante ou différente. L'attitude consistant à attaquer les autres fait partie de l'esprit de l'époque actuelle. Elle fait partie de l'esprit que nous voyons tout autour de nous. Combien de personnes ou combien de temps pensez-vous que la paix millénaire durera si le diable est libre de continuer à diffuser un esprit d'accusation? Il y a des fois où je connais, disons, le contexte de quelque chose et je parle à quelqu'un qui est aussi au courant de cette situation ou quelque chose peut-être que je ne savais pas ou que j'étais pas au courant et qu'ils ont eu l'occasion de dire et qu'ils ne l'ont pas fait, ils se sont retenus et qu'ils ne se sont pas lancés dans quelque chose qui aurait pu marquer des points et qu'ils auraient pu s'élever en démolissant quelqu'un d'autre qu'ils n'ont pas fait. Et j'ai le respect de ça. Et si vous êtes dans le ministère, vous voyez ça tout le temps en termes de conseils et de gens avec lesquels vous interagissez. Et j'admire cela, je le respecte. Mais je reconnais que c'est exactement l'esprit avec lequel Dieu cherche à remplir son millénaire. Et c'est l'opposé de l'esprit qu'il désire éliminer dans ce monde. Maintenant, un autre nom. Le diable est appelé le meurtrier dès le commencement, dans Jean 8, 44. Un meurtrier dès le commencement. Je ferai juste deux commentaires à ce sujet. Si vous pensez vraiment au premier mot dans Genèse 3, lorsqu'il commence à parler à Ève, quel était son but pendant tout ce temps? C'était de la convaincre de manger du fruit. Mais jamais il ne dit « Hey, je veux que tu manges ce fruit ». Il parle juste pendant un petit moment. N'était-ce pas une tentative de meurtre? N'était-il pas son but de pouvoir s'assurer qu'elle meure? Quelle aurait été la différence s'il aurait été une tasse de poison et ça aurait été une tentative de meurtre encore une fois? Donc, la passion de Satan est de faire du mal. Et nous voyons dans Job. Lorsque les contraintes sont levées pour le diable, à l'exception de la contrainte qui l'empêche de mettre fin à sa vie, le diable fait un tel ravage dans la vie de Job, c'en est époustouflant. Ses enfants meurent, ses serviteurs meurent, ses biens matériels disparaissent. Et cela m'a amené à penser, et si ces restrictions imposées au diable étaient levées lorsqu'il s'agit de nous, qu'est-ce qui arriverait à nous? À toutes les choses qui lui sont arrivées à Job en quelques instants, qu'est-ce que vous pensez arriver à nous tous dans cette pièce? Que pensez-vous que le diable veuille de nous? Dieu va-t-il avoir un tel esprit, quelqu'un qui a pas de pitié, qui se promenant dans le monde au cours du millénaire? Et parfois, j'entends quelqu'un qui se sent mal par le fait que le diable n'ait pas une fin miséricordieuse, en quelque sorte. Comme si le lac de feu était en quelque sorte une expression de miséricorde. Être brûlé vif n'est pas une expression de miséricorde si vous êtes un être humain. Mais le diable ne meurt pas, il fait partie des anges. Et certaines personnes se sentent mal à ce sujet. « Ah, ceci a pas l'air bon! » Mais la parole de Dieu témoigne qu'aucune miséricorde n'est accordée à ceux qui n'ont aucune miséricorde. Il n'y a rien. Il y aura la même fin qu'il a demandé pour chacun de ses choix conscients et chacune de ses actions conscientes. Il est également écrit, et c'est à peu près dans la même catégorie, que vous puissiez lui donner un nom différent dans 1 Pierre 5-8, que le diable est décrit comme étant un lion rugissant cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5-8, un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Reportons-nous à Genèse 4 à ce sujet, car il y a un parallèle intéressant. Genèse 4. Dans Genèse 4, et nous savons que Dieu parle à Caïn, et on voit que Caïn est irrité par son frère, irrité par le fait que le sacrifice d'Abel a été accepté, mais pas le sien. Je ne veux pas me laisser distraire en expliquant les raisons ici, mais nous savons cela parce que la Bible dit clairement que l'attitude de Caïn n'est pas correcte. Et Dieu parle à Caïn dans Genèse 4, verset 6. Et Dieu parle à Caïn, et dit, verset 6, Jésus-Christ préincarné, le Dieu de l'Ancien Testament, lui parle et dit au verset 6, il lui donne le conseil suivant, il dit, « L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent sur toi, mais toi domines sur lui. » Si vous lisez ce verset dans la langue hébraïque, c'est vraiment fascinant. Il fait vraiment référence ici au désir d'un animal affamé. Imaginez que juste derrière votre porte se trouve un prédateur qui veut vous tuer et vous manger. Et il disait, le péché est juste là, à votre porte, comme un lion rugissant, essayant de voir s'il peut vous dévorer. Il est facile de ne pas considérer le péché comme une chose avec laquelle on peut jouer avec et se sortir indemne. Surtout lorsque nous sommes jeunes. Je ne veux pas dire que je sais que vous tous, les jeunes, vous êtes mauvais. Je suis sûr que vous êtes tous, les jeunes, êtes beaucoup meilleurs que moi, je l'étais. J'étais un bon garçon à l'extérieur, mais ne me demandez pas ce qui est à l'intérieur. Oh! Si vous m'aviez ouvert et regardé à l'intérieur, vous auriez dit, « Oh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Nous avons tous nos problèmes. Et en tant que jeune, certainement, ayant grandi dans le monde du surcroît, j'aimerais toujours tout mettre sur le compte de la stupidité, mais souvent vous faites des choses et vous savez qu'elles sont mauvaises. Et je sais que ça doit être frustrant, car cela le serait pour moi si j'étais jeune. Mais certains d'entre vous, vous avez l'impression que constamment, les gens reviennent sur la même chose et essaient de vous dire « Ne fais pas ça » ou « Pourquoi tu fais ça » ou « Repense à cela ». Ils le disent encore et encore. Et vous vous dites « Oh, s'il vous plaît, je ne dirais pas « Tais-toi » parce que ça serait irrespectueux. » Mais dans ma tête, je ne peux pas m'empêcher de penser. J'aimerais que tu arrêtes de ramener ce sujet. Je ne le fais pas souvent. Je ne le fais pas très souvent. C'est juste un peu ici, un peu là. Je suis une bonne personne. Mais laissez-moi vous expliquer une partie de cette motivation en fait pour moi. Une des choses qui revient à moi. Les choses qui semblent petites quand on est jeune ou quand on est plus âgé ne sont pas si petites. Et en tant qu'une personne plus âgée qui en subit les conséquences, subit les effets, vous reconnaissez qu'il est trop tard pour faire en sorte que ces effets ne se produisent pas dans votre vie. Parce que le moment de changer aurait été quand vous aviez 15, 16 ou 14 ans. C'est comme un gland. Et vous savez, quand vous aviez 14, 15 ou 16 ans et que vous plantez ce gland parce qu'il était si petit, quelle différence cela pourrait-il faire? Je vais le planter juste à côté de la maison. Et puis, quand vous avez 50 ans, vous avez ce grand chêne qui arrache vos fondations, qui ruine votre maison. Et vous essayez désespérément de l'abattre, et il semble que, contre toute attente, il continue à grandir chaque année. Et vous transpirez, vous travaillez, et toutes les choses que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas, parce que vous êtes occupé à abattre ce chêne à 30, 40, 50 ou 60 ans. Et ce que vous aimeriez faire, c'est de pouvoir voyager dans le temps, vous retrouver à l'âge de 13, 14, 15 ans, et de vous donner une tape sur la tête, parce que c'est vous et que vous pouvez vous faire ça, et vous ramassez le gland et vous le jetez à 100 mètres et dire « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu ne penseras même plus à ce gland pendant 20, 30, 40 ou 50 ans, et la prochaine fois, tu devras le couper comme un emploi à temps partiel parce qu'il sera tellement grand. Et lorsque les adultes sont obsédés par une petite chose dans votre vie, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez coincé à couper un chêne alors que vous pourriez faire tellement d'autres choses plus tard dans la vie. Et c'est difficile. Et c'est un défi. Et le péché, c'est comme ça. Et il commence petit. Le diable est un lion rugissant. Et il va profiter de vous quand vous pensez que c'est petit. Et que vous ne reconnaissez pas combien grand c'est. La dernière chose sur laquelle nous allons nous concentrer est que le diable est un menteur et le père du mensonge. Cela se trouve également dans Jean 8, 44. Le diable est un menteur et le père du mensonge. C'est-à-dire le père du mensonge. Je n'ai plus le temps, mais je ne vais aller rapidement. Le point principal ici, et si vous retournez à Genèse 3, verset 1. Et j'aime la description ici de la Bible. Ça dit, le serpent était le plus rusé, le plus subtil de tous les animaux des champs. Et les mensonges qui nous affectent n'ont pas besoin d'être flagrants. Les meilleurs mensonges, les plus efficaces, sont les plus subtils, les plus rusés. Reportons-nous notre dernier passage, 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Et je m'excuse d'avoir pris autant de temps. 2 Corinthiens 11. Et merci à l'équipe de télévision de faire en sorte que ce sermon soit d'une longueur appropriée. 2 Corinthiens 11. Et nous l'avons lu beaucoup. Si vous êtes dans l'Église depuis plus de 2 semaines, vous avez déjà lu ce verset plusieurs fois. Mais c'est un verset important. Et nous l'évoquons aussi fréquemment dans les émissions de télévision, en parlant des ministres du monde et du reste. Et je vais commencer à lire ici au verset 13 et 14. Paul parle ici de faux prédicateurs. Il dit, 2 Corinthiens 11, verset 13 et 14, « Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. » En ange de lumière. Si seulement Satan aurait une fourche et des cornes, la vie serait si facile. Il serait facile de le repérer. Il pourrait dire, « Hey, viens, j'ai des bonbons dans ma voiture. » Et vous pourriez dire, « Non, désolé, cornes et fourches, vous êtes le diable, je ne veux pas là. » Mais il ne le fait pas. Il se transforme en ange de lumière. Et parfois l'erreur que nous pouvons commettre dans l'Église, c'est de penser que nous sommes maintenant un expert à part entière pour toujours repérer quand c'est la vraie lumière ou c'est l'ange de lumière ou que c'est en fait pas l'ange de lumière, mais le diable. Laissez-moi vous faire un petit jeu drôle ici, pas longtemps, mais disons que vous essayez de conspirer pour éloigner quelqu'un de la vérité, de la vie pieuse ou de l'Église de Dieu, ou d'avoir une relation solide avec Jésus-Christ. Laissez-moi vous demander, comment feriez-vous pour les poursuivre? Juste parce que vous êtes dans la pièce ici, laissez-moi vous dire ce que moi je ne ferais pas. J'essaierai pas de vous vendre Noël. Peut-être que vous avez un faible pour Noël, je n'ai aucune idée, mais si vous êtes ici, il est fort probable que vous ayez renoncé déjà à Noël. Et je n'essaierai pas de vous vendre Noël, à moins que je pense pouvoir m'en sortir. Je ne ferai pas un sandwich au jambon. Il faudrait que je vous dise que c'est un sandwich au jambon et ça ne marcherait pas. Si vous le goûtiez, vous le recacheriez. Et la part d'entre vous avez passé ce test. C'est très bien, merveilleux. Est-ce que cela veut dire que le diable a renoncé à vous? Que le diable pense dans sa tête, « Oh non, il peut pas manger ce sandwich de jambon. » Donc, il va dire, « Le royaume, j'ai perdu celui-là, je suppose. » Non, est-ce que vous essaierez de vous convaincre de garder le dimanche au lieu du samedi? Peut-être que la plupart d'entre vous ont fait de grands sacrifices pour cette raison. Et si j'étais le diable, je ne travaillerais pas là-dessus. Si j'étais le diable, est-ce que je pourrais peut-être essayer de vous vendre juste de pouvoir lutter contre l'avortement lors des prochaines élections? Je pourrais faire ça. Parce que vous vous souciez de la vie, vous vous souciez probablement de l'avortement et que vous détestez le voir. Je pourrais vous présenter peut-être une occasion d'améliorer le monde d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse du racisme, d'une économie injuste. Pour essayer d'atténuer certaines souffrances par le moyen du monde, je vous tenterai probablement avec cela. Car si vous êtes chrétien, vous vous souciez probablement de ces choses. Voir des gens appauvris et sans-abri fait mal. Voir des personnes jugées en fonction de la couleur de leur peau est douloureux. Alors j'essaierai probablement de vous avoir avec ça. J'essaierai de vous séduire avec des idées sur la foi, la droiture, le calendrier, la Bible, quelque chose, n'importe quoi qui pourrait vous aider à vous sentir un peu plus proche de la vérité que les autres. Juste un peu plus que les autres. Un peu plus fidèle, un peu plus chrétien, un meilleur chrétien. Et pourquoi je ferais cela? Parce que je veux apparaître comme un ange de lumière. Et si je vais à la pêche pour vous, je vais utiliser l'appât qui fonctionne pour vous. Pourquoi utiliserais-je un appât qui ne fonctionne pas? Il est facile de voir ce verset comme celui-ci et de penser au monde et de se dire « Ah oui, ce prédicateur protestant que j'avais à la télévision l'autre jour est d'aller au ciel, il prêche la Trinité et tout le reste. » Le diable n'utilise pas cela pour apparaître à vous ou à moi comme un ange de lumière. Il va utiliser l'appât qui fonctionne avec nous. Le millénaire pourrait-il jamais produire si un tel être est dans le monde, trompant constamment ou corrompant constamment la vérité? Absolument pas. Le père du manche 11 sera supprimé. Je sais que ce n'est pas un jour qui est drôle physiquement, mais c'est censé être une image de quelque chose d'extrêmement important. Alors que nous nous rendons tous dans quelques jours à la fête des tabernacles, pour célébrer les choses merveilleuses que Jésus-Christ apporte sur la terre, gardons à l'esprit que cette fête ne serait pas possible si le jeûne n'avait pas eu lieu auparavant.